Bonjour. La quatrième allocution d'Emmanuel Macron depuis le début de la crise sanitaire. On attend ce soir du chef de l'État qu'il précise la troisième étape du déconfinement et la façon dont le pays se prépare au choc économique de l'après-crise. Comment aider les entreprises et soutenir les salariés? Pour le MEDEF, il faut aller plus vite dans la reprise. Pour la CFDT, il faut faire autrement qu'avant la crise et lancer un plan de relance écologique et sociale. Nous les entendrons. Le président de la République devrait s'exprimer aussi sur le débat des violences policières et du racisme après la nouvelle journée de manifestation d'hier. Un débat qui s'élargit à l'histoire et à la mémoire des peuples. Invité de ce journal, le président de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, Jean-Marc Ayrault, qui voudrait débaptiser les salles Colbert de l'Assemblée nationale et de Bercy. Dans ce journal également, la crainte d'une résurgence de l'épidémie en Iran et en Chine, où les cas de contamination repartent à la hausse. L'appel de l'établissement français du sang pour cette journée mondiale du don du sang, les stocks sont au plus bas. Le départ de Cavani du PSG, c'est officiel, l'attaquant uruguayen meilleur buteur de l'histoire du club ne sera plus là à la rentrée. Et puis les parcs de loisirs rouvrent leurs portes au public. Premier d'entre eux ce week-end, le Futuroscope de Poitiers.
France Inter.
Il indiquera peut-être ses grandes orientations pour la fin du quinquennat. À moins de 2 ans de la présidentielle, le président de la République prononcera ce soir sa quatrième allocution solennelle depuis le début de la crise sanitaire, à suivre notamment sur France Inter. C'est sur les sujets d'actualité qu'il est le plus attendu, le débat sur les violences policières et le racisme. On va y revenir. Il est attendu également, bien sûr, aussi sur la troisième étape du déconfinement, quid des cafés et restaurants de Paris qui veulent rouvrir, de l'allègement espéré du protocole sanitaire dans les écoles et les collèges. Et plus globalement, c'est la question qui peut-être inquiète le plus de monde. Comment le pays se prépare-t-il au choc économique et social de l'après-crise, dont on sait qu'il sera rude pour les entreprises, les salariés, les commerçants et indépendants? Et c'est justement pour la CFDT l'occasion de repartir sur un nouveau pied. Son secrétaire général, Laurent Berger, était à l'instant sur France 3.
Il faudrait que ce plan de relance il soit concerté, qu'il soit écologique et social aussi, pas qu'économique. Moi, je crains beaucoup, vous savez, le retour au vieux réflexe. Le vieux réflexe, c'est un modèle productiviste sans regarder l'impact que ça a sur l'environnement et un modèle qui vit très bien avec les inégalités sociales. Eh bien non, il faut changer ça. Pour ça, nous appelons à une conférence écologique et sociale. Et j'espère que ce soir, le président de la République dira qu'il lance ce type de concertation pour réfléchir à ce plan de relance.
Pour le MEDEF et son président Geoffroy Roux de Bézieux, il faut bien sûr aider les entreprises à repartir du bon pied, mais il faut maintenant aller plus vite dans la reprise.
S'il se confirme que la pandémie ou ses contrôles, oui, il faut accélérer le déconfinement parce que chaque jour, chaque semaine coûte à l'économie et que le plus vite on déconfinera, plus vite on repartira à travailler, à consommer, à voyager, plus vite on sauvera l'emploi. Il y a un petit côté, je le dis sans polémique, morphine, si j'ose dire,
oui.
Avec tous ces systèmes d'aide. On a l'impression, finalement, que au fond, il ne se passe rien. Mais non, chaque jour, on s'endette.
La
chaque jour, on dépense de l'argent.
L'économie est sous perfusion.
Oui, mais bien sûr. Oui, et il fallait le faire. Mais il faut sortir de la perfusion le plus vite possible.
Geoffroy Roux de Bézieux, à l'instant sur LCI. La crise sanitaire va coûter cher aux entreprises. 4 milliards d'euros, notamment pour la SNCF. C'est le minimum estimé par son PDG, Jean-Pierre Farandou, qui le dit au JDD. Sur ces 4 milliards de pertes de chiffre d'affaires, le TGV devrait en représenter à lui seul la moitié. Et la reprise n'est pas pour tout de suite. 20% de réservations seulement ont été enregistrées pour le mois de juillet à ce jour. Et 8% seulement pour le mois d'août. Des milliers de manifestants dans toute la France hier à l'appel du comité Adama Traoré. 15 000 personnes à Paris selon la préfecture de police. Des policiers qui se rassemblent ensuite en soirée devant l'Arc de Triomphe avec voitures et gyrophares. C'est l'autre sujet sur lequel la parole d'Emmanuel Macron est très attendue. Le débat sur les violences policières et plus globalement sur le racisme dans les forces de l'ordre. Et ailleurs, jusque dans l'histoire, par exemple, on a eu ces derniers jours partout dans le monde, en écho au mouvement Black Lives Matter, des statues déboulonnées ou taguées, Churchill à Londres ou De Gaulle à Pavillon-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Hier, c'est l'ancien Premier ministre Jean-Marc Ayrault qui demandait dans Le Monde que soient débaptisées 2 salles portant le nom de Colbert à l'Assemblée nationale et à Bercy. Bonjour Jean-Marc Ayrault. Premier ministre de François Hollande et ancien maire de Nantes, vous êtes surtout en l'occurrence le président de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Alors Colbert, c'est bien sûr le code noir, les règles de vie des esclaves, mais pourquoi s'y intéresser maintenant?
Je crois que
le moment est venu pour la France de franchir une nouvelle étape. Il y a eu des étapes de franchies, vous les avez rappelées. Moi-même, comme maire de Nantes, j'ai fait un travail de mémoire, comme ce qui se fait aussi à Bordeaux et dans d'autres territoires, en Hexagone ou Outre-mer, c'est très important. Puis il y a eu la loi Taubira, que j'ai soutenue quand j'étais présidente du groupe socialiste, dont faisait partie Christiane Taubira, qui reconnaît que la France était responsable d'un crime contre l'humanité, où on a beaucoup parlé du code noir. Donc, ce qui est aujourd'hui important, c'est de faire clarté sur notre propre histoire. Il ne s'agit pas d'effacer l'histoire, il ne s'agit pas de mettre Colbert entre parenthèses, qui a été un homme d'État, qui a construit la France, mais rappeler qu'il a été aussi l'auteur du Code Noir, et le Code Noir, c'est la mise en esclavage de millions de personnes par laquelle la France s'est enrichie, comme toute l'Europe d'ailleurs, avec un texte qui s'appelait le Code Noir, dont il a été le responsable et l'auteur, et qui donnait les pouvoirs et les droits des propriétaires d'esclaves, et qui qualifiait les esclaves de biens meubles, et qu'on pouvait vendre, qu'on pouvait exploiter, qu'on pouvait violenter, et qui ont été des millions d'hommes et de femmes et d'enfants déportés, et qui ont saigné à blanc l'Afrique, donc il ne faut pas oublier tout ça, et ces questions en résonance aujourd'hui dans le débat actuel, je pense qu'il est important, je le répète et je le dis comme président de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, de franchir une étape, c'est pourquoi j'ai fait cette proposition.
Mais c'était en 1685, Jean-Marc Ayrault, la notion de racisme n'existait pas vraiment. Est-ce qu'on peut relire l'histoire dans le contexte d'aujourd'hui?
Ben, il faut surtout donner des clés d'explication. J'ai parlé de l'Assemblée nationale, j'ai parlé du ministère des Finances, parce que ce sont des lieux de la République, et Colbert a joué peut-être un rôle, mais la salle Colbert, c'est la salle où se réunit le groupe majoritaire. Et pendant des années, on ne s'est pas posé de questions, moi comme les autres, et aujourd'hui, je pense que, notamment après à l'éclairage des problèmes qui se posent aujourd'hui, le racisme, les préjugés qui demeurent, qu'on mette dans ces lieux des noms qui nous parlent, qui sont des lieux de la République, où on vote la loi. Et la loi Taubira en fait partie, mais il y a aussi d'autres lois qui sont des lois d'émancipation. Et donc il faut que les futurs visiteurs de l'Assemblée nationale, je pense aux jeunes, je pense aux visiteurs étrangers, puissent en visitant l'Assemblée nationale comprendre notre histoire. Je ne propose pas, par exemple, de supprimer la statue de Colbert. Je ne propose pas d'effacer tous les noms de Colbert des rues de France. Oui. Mais il est important qu'à chaque fois, on donne une explication, une clé, et puis qui sera pour ceux qui souffrent du racisme aujourd'hui une forme de réparation, une forme de reconnaissance qu'on est sensible à cette question. Et je crois que c'est important pour ceux qui subissent les discriminations que des messages forts leur soient apportés.
Alors des messages qui doivent être limités, si je vous comprends bien, par exemple...
Non, des messages ambitieux, mais qu'ils soient clairs.
Oui, mais je veux dire, limiter dans leur expression, par exemple, déboulonner, s'attaquer au statut de Schœlcher, ça n'a pas de sens.
Ça, c'est une erreur, je ne partage pas, bien sûr, c'est une colère, mais ce n'est pas suffisant. Et je crois que Schœlcher fait partie de ces esprits éclairés de la République qu'il faut honorer, parce qu'il a peut-être eu des contradictions, comme nous en avons tous, comme il y en a eu chez les personnalités de notre histoire, mais Schœlcher était un esprit lumineux qui s'est engagé toute sa vie contre l'esclavage et qui a fini par l'obtenir en 1848. Mais c'était la deuxième fois. Je rappelle qu'en 1794, la Révolution française avait aboli l'esclavage que Napoléon a rétabli. Et on sait bien que ces millions d'hommes et de femmes et d'enfants qui en ont été victimes, souffrance s'est poursuivie sous l'époque de la colonisation, avec le travail forcé, l'engagisme. Et on sait bien que tout ça conduit à des... Enfin, vous disiez que le racisme n'existait pas avec le Code Noir. Mais le Code Noir a instauré le racisme et la hiérarchie des races. Et vous croyez pas que ça...
La notion de racisme.
Dans l'inconscient collectif et dans notre imaginaire commun. Mmh. Et donc je crois qu'il faut aider à se libérer de ce poids et de le faire ensemble. Moi je suis pour qu'on vive ensemble une mémoire partagée, que les idéaux de la République, donc, on les fasse vivre.
En regardant...
Et notamment dans les lieux symboliques de la République.
Voilà, en regardant...
Je dis qu'aux responsables aujourd'hui, c'est plus moi qui en ai la charge, le président de l'Assemblée nationale, le ministre de l'Économie et des Finances, à eux de méditer et de prendre leurs responsabilités.
En regardant au cas par cas, bien sûr, on est d'accord, Jean-Marc Ayrault, parce que
chercher à gommer
l'histoire, c'est
une initiative intéressante. Il a créé une commission où experts, historiens, représentants de la société civile vont examiner cas par cas et prendre la bonne décision, mais qui sera une décision aussi d'équité, de justice et de vérité.
Voilà, ce que chercher à gommer l'histoire, c'est l'apanage des totalitarismes.
Ben, c'est ce qu'il faut faire.
C'est une sorte de révisionnisme, en quelque sorte.
Ben, absolument. Moi, vous savez, j'ai été avec Christiane Taubira, un des promoteurs de la loi qui fait que la France reconnaît que l'esclavage était un crime contre l'humanité, mais qui fait aussi obligation d'enseigner cette histoire dans les programmes scolaires. Donc c'est pas moi qui vais effacer l'histoire. Au contraire, j'ai envie qu'on donne à la jeunesse les clés de la compréhension de cette histoire, de notre histoire commune.
Jean-Marc Ayrault, président de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On évoquait George Floyd aux États-Unis tout à l'heure. Un nouveau drame pourrait encore exacerber les tensions. La mort d'un autre homme noir à Atlanta. Un homme abattu par la police alors qu'il tentait de prendre la fuite à l'issue d'un contrôle. Il s'était assoupi au volant de sa voiture sur l'accès au drive d'un restaurant, lequel a été incendié la nuit dernière par des manifestants pour avoir appelé justement la police. La chef de la police d'Atlanta a démissionné en jugeant parfaitement injustifié l'usage par ces hommes de la force létale.
France Inter, le journal de 13h, Yves Decamp.
La seule issue de la crise sanitaire, ce qui pourra nous rassurer complètement, c'est bien sûr la mise au point d'un vaccin. Les recherches avancent à vitesse grand V partout à travers le monde, avec parfois l'annonce d'une bonne nouvelle, au point que tous les pays cherchent déjà à sécuriser leur approvisionnement. C'est le cas des Européens, la France, l'Allemagne, l'Italie et les Pays-Bas qui viennent ensemble de signer un accord avec le groupe pharmaceutique AstraZeneca pour 400 millions de doses de vaccins, comme l'avaient fait aussi les États-Unis. Le laboratoire anglo suédois assure être arrivé à une phase avancée de ses expérimentations, annonce à prendre avec des pincettes, précise toutefois Dominique Costagliola, épidémiologiste spécialiste du sida, directrice adjointe de l'Institut Pierre-Louis. Elle était ce matin l'invitée de la matinale sur France Inter.
C'est potentiel, il va falloir attendre le résultat des essais cliniques qui seront conduits pour savoir si ce vaccin aura une certaine efficacité ou pas. Ce n'est pas parce qu'on a des essais de phase 1 ou même des essais qui passent en phase 2 ou en phase 3 qu'on a forcément un vaccin. Dans le domaine qui est le mien, l'infection à VIH, on a eu bien des fois des essais de phase 1 prometteurs et on n'a toujours pas de vaccin. Alors c'est plus facile pour les coronavirus. On a déjà su faire des vaccins contre les coronavirus animaux dans le passé. Donc on a de meilleurs espoirs malgré tout. Mais il est difficile de prédire absolument dans quel délai on obtiendra un vaccin. Ça n'est jamais arrivé qu'on ait un vaccin contre une maladie infectieuse en moins de 10 ans dans l'histoire. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y arriver cette fois-ci, mais ça montre quand même que la marche est très haute.
En attendant un hypothétique vaccin, la crainte d'une résurgence de l'épidémie reste entière. Partout sur la planète, le virus continue de circuler. En France, un nouveau foyer de Covid-19 a été identifié dans la région toulousaine. 16 personnes contaminées à l'issue d'un rassemblement familial. Elles ont été mises à l'isolement. Même chose à Rome, où deux nouveaux foyers sont apparus dans un hôpital et dans un squat. Le plus inquiétant, c'est le rebond des nouveaux cas de Covid-19 enregistrés en Chine. 57 personnes, dont 36 à Pékin, sur un marché de gros. Simon Le Plâtre nous appelle de Chine.
Ce matin, certains Pékinois ont eu une mauvaise surprise en allant faire les courses. Au rayon frais, les étals de légumes et de viande sont complètement vides. Et pour cause, la veille samedi matin, la capitale chinoise a fermé son principal marché de gros, Xinfadi, après la découverte d'un nouveau foyer de contamination. Aujourd'hui, les autorités ont annoncé 36 nouveaux cas et dans toute la ville, c'est le branle-bas de combat car le ringis pékinois brasse des milliers de personnes chaque jour. Alors les comités de résidents font du porte-à-porte pour demander aux habitants s'ils se sont rendus au marché. Les 10 000 employés du marché, les riverains et tous ceux qui y sont allés récemment vont être testés et 11 quartiers du district de Fengtai au sud où se trouve le marché ont été à nouveau confinés. L'origine de cette nouvelle contamination n'a pas été établie, mais les autorités ont insisté sur des échantillons positifs découverts sur une planche servant à couper du saumon importé. Alors si les scientifiques pensent plutôt à des patients asymptomatiques qui auraient transmis le virus, il n'en fallait pas moins pour que des milliers de supermarchés chinois retirent le saumon de leurs étals. À Shanghai, Simon Le Plâtre pour France Inter.
En Iran, par ailleurs, les autorités annoncent plus de 100 morts ces dernières 24 heures pour la première fois depuis deux mois. Le président Rouhani accuse d'ailleurs ses concitoyens de ne pas respecter suffisamment les consignes sanitaires. Il faut le rappeler assez régulièrement, nos hôpitaux ont besoin de sang, les stocks ne sont pas toujours au niveau et c'est le cas cette année plus que les années précédentes. Les dons sont en forte baisse depuis un mois, depuis même trois mois, depuis le début du confinement, alors même que la demande risque maintenant d'augmenter. Raison de plus pour donner de sa personne ce dimanche pour la journée mondiale du don du sang. Distanciation oblige, on ne suffit pas de se présenter sur les lieux de collecte, il faut d'abord prendre rendez-vous. Illustration à Nantes, Tiphaine Morin.
Avant même l'ouverture des portes, une dizaine de donneurs patientent devant la Cité des Congrès, surtout des habitués, sauf Charlie, 27 ans.
En fait, je trouve un peu l'événement par hasard sur Facebook. Je me suis dit, bah, tiens, j'ai du temps pour une fois, je suis en chômage partiel. Du coup, bah, je travaille 40%, donc je vais y aller.
Depuis le début de la crise sanitaire, le don se fait sur rendez-vous, par créneau de 15 minutes. À l'entrée du bâtiment, un bénévole oriente les donneurs et les consignes sont strictes.
Prenez le temps de vous asseoir là-bas pour prendre l'eau, parce qu'une fois que vous serez passé au stand là-bas, vous aurez le gel hydroalcoolique et ensuite un nouveau masque. Et du coup, on va vous demander de ne plus retirer le masque.
À l'intérieur, les espaces d'accueil sont bien délimités. Des flèches au sol indiquent le sens de circulation. Après avoir complété sa fiche de renseignement, le donneur s'installe un peu plus loin sur un lit. C'était la première fois pour Virginie.
C'était pas fatigant, pas douloureux. Ça dure moins de 10 minutes, donc je recommencerai.
Pâte de fruits et jus de pomme.
Après le don, la collation, les bénévoles s'activent pour la distribution.
Et après, je vais faire un petit café pour la petite dame.
Elisa ouvre son jus de pomme en brique. C'est une habituée des collectes.
C'est là, il y avait une inscription en ligne. C'est vrai que c'était plus facile. Parce que des fois, par téléphone, c'est un peu saturé. Donc voilà, c'était un nouveau procédé qui a facilité la venue aujourd'hui.
Vous pouvez vous aussi vous inscrire sur le site internet Mon Rendez-vous Don de Sang.
Oui, les dons du sang ont été moins nombreux pendant le confinement. On a frôlé la pénurie, explique l'établissement français du sang, qui appelle donc au don jusqu'au mois de septembre, explique son directeur. Il faut être porté pour pouvoir mieux réorganiser notre offre de collecte. En sport, un besoin de sang frais également au PSG. Après avoir acté cette semaine le départ de Thiago Silva, le directeur sportif des champions de France, Leonardo, confirme qu'il ne renouvellera pas non plus le contrat d'Edinson Cavani. Et c'est vraiment une page qui se tourne avec le départ de l'attaquant uruguayen au PSG depuis 2013 et meilleur buteur de l'histoire du club, Cédric Guillou.
Les statistiques disent souvent à quel point un joueur a marqué l'histoire d'un club. En 301 matchs sous le maillot parisien, Edinson Cavani a inscrit 200 buts, devenant le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Arrivé de Naples en juillet 2013 pour 64 millions d'euros, devenant alors la recrue la plus chère de l'histoire du football français, l'attaquant uruguayen a d'abord connu une période délicate à Paris, étant notamment en concurrence avec Zlatan Ibrahimovic. Mais très vite, Cavani est devenu incontournable au sein de l'attaque parisienne. Malgré la présence au PSG d'Ibrahimovic donc, mais aussi de Neymar ou d'Mbappé, Cavani sera devenu en 7 ans de présence au PSG l'idole du Parc des Princes. Un joueur dont le nom était scandé par les supporters lorsque l'Uruguayen sortait du banc de touche ou empilait les buts sur l'air des démons de minuit. Arrivé à 33 ans en fin de contrat, le Matador, comme il est surnommé, laissera un souvenir impérissable au Paris Saint-Germain. Pas le meilleur techniquement, mais un état d'esprit remarquable, une combativité à toute épreuve et surtout un instinct de buteur qui l'ont fait entrer dans l'histoire du PSG.
Cavani qui voulait partir, au contraire de Thiago Silva qui lui aurait aimé prolonger son contrat à Paris. Allez, en attendant la réouverture des salles de spectacle et des cinémas, les parcs d'attractions se préparent au retour du public. Demain, le parc Astérix rouvre ses portes en banlieue nord de Paris, précédé ce week-end par le Futuroscope de Poitiers, le premier de France à reprendre après 3 mois d'interruption, dans le respect de la distanciation physique bien entendu. Reportage Isabelle Rivière.
Dès 10h du matin, deux grandes rangées aux caisses. Les visiteurs, masques sur le visage, sont accueillis aux surprises par une fanfare. De la musique et des sourires, et de l'autre côté des caisses, des salariés qui font une haie d'honneur et applaudissent les premiers visiteurs post-confinement.
Les enfants étaient un peu impressionnés par les applaudissements, mais sympa comme tout.
À l'intérieur des pavillons, des croix au sol pour marquer la distanciation sociale et toute une série de mesures de sécurité sanitaire, comme l'explique Rodolphe Bouin, le directeur du parc.
Le travail a été fait finement, attraction par attraction, boutique par boutique, restaurant par restaurant, parce que les équipements ne sont pas les mêmes d'une attraction à une autre. On a parfois plutôt des cadences qui ont été espacées parce qu'on considère qu'il faut nettoyer l'ensemble des équipements après chaque passage. Parfois, c'est plutôt les capacités qui sont réduites. Donc c'est tout un arsenal effectivement de dispositions qui effectivement bah, permettent de faire les choses sérieusement, mais encore une fois sans entacher l'expérience de visite.
Un plaisir de visite renforcé aussi par plus de fluidité pour éviter les longues files d'attente à touche-touche. Le parc a développé les réservations en ligne sur application mobile. C'est aussi un bon moyen de gérer les flux de visiteurs sur chaque attraction.
Un redémarrage qui se fait très doucement avec seulement 3500 visiteurs pour la première journée, 2 fois moins que la normale.